Chapitre 2. Les contrebandiers. Ils n'aient guère d'esprit plus libre que les ménestrels itinérants, en tout cas dans les six duchés. Si l'un d'eux a suffisamment de talent, il peut s'attendre à voir toutes les règles de bienséance suspendues à son bénéfice. Il a le droit de poser les questions les plus indiscrètes, car cela fait partie de son métier. Règle quasiment sans exception, un ménestrel sera reçu partout, de la propre table du roi jusque dans la masure la plus misérable. Les membres de cette corporation se marient rarement, jeunes. Mais il n'est pas inhabituel qu'ils aient néanmoins des enfants. Ces rejetons sont exempts des stigmates qui entachent les autres bâtards, et ils sont souvent élevés dans des châteaux afin de devenir eux-mêmes ménestrels. Il est considéré comme normal que ce corps fréquente des hors-la-loi et des rebelles aussi bien que des nobles et des marchands. Ses membres transportent des messages, diffusent des nouvelles et conservent en mémoire d'innombrables accords et promesses. Du moins, en est-il ainsi en temps de paix et de prospérité. Astéry rentra si tard que, pour Burick, c'eût été le petit matin. Je m'éveillai à l'instant où elle posa la main sur la clenche, sortit vivement du lit et m'enveloppai dans mon manteau avant de m'allonger sur le plancher.
« Soir, Fitz-Chevalerie,
bredouilla-t-elle, et je sentis l'odeur du vin dans son haleine. Elle ôta son manteau humide, me jeta un coup d'œil en biais, puis l'étendit sur moi comme couverture supplémentaire. Je fermai les yeux. Elle laissa tomber ses vêtements par terre derrière moi, avec une parfaite indifférence pour ma présence. J'entendis le lit grincer lorsqu'elle se jeta dessus.
« Encore tout chaud !»
marmonna-t-elle en se mussant dans les draps.
« J'ai des remords de vous voler votre coin douillet. »
Ces remords ne devaient pas la tarauder outre mesure, car quelques secondes plus tard, j'entendis sa respiration devenir lourde et régulière. Je suivis son exemple. Levé très tôt, je quittai l'auberge. Astéry n'eut même pas un frémissement dans son sommeil lorsque je sortis de la chambre. Et trouvai rapidement un établissement de bain. Les étuves étaient presque désertes à cette heure matinale, et je dus attendre qu'on fît chauffer la première eau de la journée. Quand elle fut prête, je me dévêtis et m'immergeai prudemment dans le bain profond et brûlant. Je laissai ma douleur à l'épaule s'apaiser, puis je fis ma toilette, et enfin m'allongeai dans la cuve pour jouir du silence et réfléchir. L'idée de m'acoquiner avec des contrebandiers ne me plaisait pas, pas plus que celle de m'aboucher avec Astéry, mais je n'avais pas le choix, semblait-il. Pourtant, avec quoi les payer pour qu'ils m'emmènent? Je n'avais que très peu d'argent. La boucle d'oreille de Burick? Je ne voulais même pas l'envisager. Longtemps, je demeurai dans l'eau jusqu'au menton, résolu à ne pas y penser.
Rejoins-moi.
Je trouverai un autre moyen. Je m'en fis la promesse. Je trouverai. Je songeais à ce que j'avais éprouvé lorsque Vérité était intervenue pour me sauver. La décharge d'art l'avait laissé sans réserve. J'ignorais quelle était sa situation, mais je savais qu'il n'avait pas hésité à donner tout ce qu'il avait pour moi. Et si je devais choisir entre me séparer du clou d'oreille de Burick et rejoindre Vérité, c'est Vérité que je choisirais. Non à cause de l'ordre d'art qu'il avait gravé en moi, ni même du serment que j'avais prêté à son père, mais pour lui-même. Je me redressai dans la cuve et laissai l'eau ruisseler de mon corps. Je me séchai, perdis quelques minutes à essayer de me tailler la barbe, renonçai devant le résultat désastreux et repris le chemin de la hure de sanglier. Je connus un moment d'angoisse dans la rue. Un chariot me doubla, et ce n'était nul autre que celui de Dell, le marionnettiste. Je conservai une allure vive, et le jeune apprenti qui menait la voiture ne parut pas me remarquer. Néanmoins, c'est avec soulagement que je poussai la porte de l'auberge. Je pris une table d'angle près de l'âtre, et commandai au garçon du thé avec une miche de pain frais dont la mie, selon une recette beaugienne, contenait un mélange de graines, de noix et de morceaux de fruits. Je mangeais sans me presser en attendant qu'Astéry descende. Je ressentais à la fois de l'impatience de me mettre en quête des contrebandiers et de la répugnance à m'en remettre si totalement à la ménestrelle. Comme les heures s'écoulaient lentement, je surpris par deux fois le garçon en train de me regarder curieusement. La troisième fois, je lui rendis son regard jusqu'à ce qu'il rougisse et détourne les yeux. Je devinai alors la raison de son intérêt. J'avais passé la nuit chez Astérie, et il devait se demander ce qui lui avait pris de partager son lit avec un vagabond pareil. Je ne m'en sentis pas moins mal à l'aise. On était à mi-matinée. Je me levai et montai à la porte d'Astérie. Je frappai doucement, mais sans résultat. Je recommençai plus fort, et une voix ensommeillée me répondit enfin. Au bout d'un moment, la ménestrelle entr'ouvrit le battant, me regarda en bâillant, et me fit signe d'entrer. Elle n'était vêtue que d'une paire de chausses et d'une tunique trop grande pour elle, et qu'elle venait visiblement de passer. Ses cheveux bouclés faisaient une masse ébouriffée autour de son visage. Elle s'assit lourdement au bord du lit en clignant les yeux, tandis que je refermais la porte et la verrouillais.
« Ah, vous avez pris un bain ?»
fit-elle en guise de salut, puis elle bâilla de nouveau. « Ça se remarque à ce point ?» répliquai-je un peu vexé. Elle hocha gracieusement la tête. « À un moment, je me suis réveillé et j'ai cru que vous m'aviez planté là. Mais je ne me faisais pas de soucis. Vous ne pouvez pas les trouver sans moi. » Elle se frotta les yeux, puis m'examina d'un air critique. « Qu'avez-vous fait à votre barbe ?» J'ai voulu la tailler, sans grand succès. Elle acquiesça.
« Mais c'était une bonne idée.
Vous auriez peut-être un peu moins l'aspect d'un homme des bois, et Chris, Tassin ou les autres membres de la caravane auraient peut-être plus de mal à vous reconnaître. Tenez, je vais vous aider. Allez vous asseoir sur cette chaise là-bas. Ah, et puis ouvrez les volets, qu'on y voit plus clair. »
J'obéis sans enthousiasme. Elle se leva, s'étira et se frotta les yeux. Elle prit quelques instants pour s'asperger le visage d'eau, se passer les doigts dans les cheveux, qu'elle fixa ensuite à l'aide de petits peignes. Elle serra une ceinture à sa taille pour donner une forme à sa tunique, puis enfila ses bottes et les laça. En un tournement, elle était présentable. Enfin, elle s'approcha de moi, me prit le menton et me tourna sans complexe le visage de droite et de gauche. Pour ma part, j'étais incapable de rester aussi détaché.
« Vous rougissez toujours aussi facilement ?»
me demanda-t-elle en riant. « C'est rare, un servien qui pique de tels phares. Votre mère devait avoir le teint clair. » Ignorant que répondre, je gardais le silence pendant qu'elle fouillait dans son paquetage et en tirait de petits ciseaux. Elle se mit à l'ouvrage d'une main vive et preste.
« Autrefois, je coupais les cheveux de mon frère, » m'expliqua-t-elle,
« et de mon père aussi,
ainsi que la barbe après la mort de ma mère.
Vous avez une belle ligne de mâchoire en dessous de tous ces poils. Vous les avez laissés pousser n'importe comment, sans y toucher. »
« Ma foi, » marmonnai-je inquiet. Les ciseaux s'agitaient juste sous mon nez. Astérie s'interrompit pour me passer la main sur le visage. De considérables paquets de poils bouclés tombèrent par terre.
« Attention, ma cicatrice ne doit pas être visible, » lui dis-je.
« Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle calmement.
« En revanche, on verra vos lèvres au lieu d'un trou dans votre moustache.
Levez la tête, là. Avez-vous un rasoir ?»«
Mon couteau, c'est tout, » avouai-je, gêné.
« On se débrouillera, » fit-elle d'un ton rassurant.
Elle alla ouvrir la porte en grand, et mettant à profit sa capacité thoracique de ménestrel, prit une voix de stentor pour demander au garçon de l'auberge de lui apporter de l'eau bouillante, du thé, du pain et quelques tranches de jambon fumé. Revenue auprès de moi, elle inclina la tête de côté et m'observa d'un œil critique.
« On va couper les cheveux aussi. Dénouez-les. »
Comme je réagissais trop lentement à son goût, elle passa derrière moi, ôta mon mouchoir et défit la lanière de cuir qui retenait mes cheveux. Libre, il me tombait sur les épaules. Saisissant son peigne, elle me les rabattit sans douceur sur le visage.
« Voyons, »
marmonna-t-elle, cependant que je serrais les dents. « Que proposez-vous » demandai-je, mais déjà des poignées de cheveux tombaient. J'ignorais ce qu'elle avait décidé, mais cela prenait rapidement forme. Elle tira des mèches sur mon visage, les coupa au-dessus de mes sourcils, passa son peigne dans le reste et cisailla en dessous des oreilles.
« Maintenant, » me dit-elle, « vous ressemblez davantage à un marchand bougien. Avant, vous étiez de serre. On ne pouvait pas s'y tromper. » Vos cheveux ont toujours une teinte typiquement servienne, mais vous avez au moins la coiffure et la tenue de Bourges.
Tant que vous n'ouvrirez pas la bouche, on ne saura pas d'où vous êtes. » Elle m'examina encore quelques secondes, puis se remit au travail sur les mèches de devant. Enfin, elle chercha un miroir et me le tendit.
« Le blanc se verra beaucoup moins à présent. »
C'était exact. Elle avait coupé ras la plus grande partie de la mèche blanche et rabattu par-dessus des cheveux sombres. Ma barbe raccourcie m'encadrait également mieux le visage, et, un peu à contre-cœur, je hochai la tête en signe d'approbation. On frappa à la porte.
« Laissez tout dans le couloir !» cria la ménestrelle.
Elle attendit quelques instants, puis alla chercher son petit déjeuner et l'eau chaude. Elle se débarbouilla, puis me suggéra d'aiguiser mon couteau pendant qu'elle se restaurait. J'obéis, et tout en affûtant la lame, me demandais si je devais me sentir agacé ou flatté des changements qu'elle avait apportés à mon aspect. Elle commençait à me faire penser à patience. Elle mâchait encore sa dernière bouchée lorsqu'elle vint me prendre le couteau des mains.
« Je vais donner un peu de fini à votre barbe, » dit-elle.
« Mais après, il faudra que vous vous en occupiez vous-même. Je ne vais pas vous raser tous les jours.
Maintenant, humectez-vous bien le visage. » Et c'est avec une inquiétude certaine que je la vis brandir le couteau, surtout sachant qu'elle allait œuvrer près de ma gorge. Mais quand elle eut fini et que j'approchais le miroir, je restais stupéfait des modifications opérées. Ma barbe était nette, circonscrite à mon menton et mes joues. Les cheveux coupés droit au-dessus de mon front faisaient paraître mes yeux plus enfoncés. Ma cicatrice à la joue demeurait visible, mais elle suivait la ligne de ma moustache, ce qui la rendait moins apparente. Je me passais la main sur la barbe, tout heureux de la sentir moins épaisse sous mes doigts.
« Eh bien, quel changement !» m'exclamai-je.
« Quelle amélioration, surtout !» rétorqua-t-elle.
« Ça m'étonnerait que Cress ou Tassin vous reconnaissent maintenant. Bon, débarrassons-nous de ça. »
Elle rassembla les cheveux sur le plancher, ouvrit la fenêtre et les jeta au vent. Puis elle referma le bâton et s'épousseta les mains.
« Merci, » dis-je embarrassé.
« De rien, »
répondit-elle. Elle jeta un coup d'œil sur la chambre et poussa un petit soupir.
« Ce lit va me manquer, »
fit-elle. Puis elle se mit à faire son paquetage avec une vive efficacité. Elle surprit mon regard admiratif et sourit. Quand on est ménestrelle itinérante, on apprend à faire ce genre de choses vite et bien. Elle fourra les dernières affaires dans son sac, puis resserra le lassage et jeta le paquetage sur son épaule.
« Allez m'attendre en bas de l'escalier de service, » m'ordonna-t-elle, « pendant que je règle ma note. »
J'obéis, mais je dus patienter nettement plus longtemps que je ne l'avais prévu dans le vent froid. Enfin, elle sortit, les joues roses, prête à affronter la journée. Elle s'étira comme un chaton.
« Par ici, » fit-elle.
Je pensais devoir raccourcir mes enjambées pour lui permettre de me suivre, mais elle soutint mon allure sans difficulté. Elle me jeta un regard en biais, tandis que nous quittions le quartier commerçant de la ville et prenions la direction du nord.
« Vous avez changé, » déclara-t-elle, « et ce n'est pas seulement la coupe de cheveux. Vous avez pris une décision. »
« En effet, » acquiesçai-je.
« Tant mieux, »
dit-elle avec chaleur en prenant mon bras d'un geste amical.
« J'espère que c'est celle de me faire confiance. »
Je la regardais sans répondre. Elle éclata de rire, mais ne me lâcha pas le bras pour autant. Les passages couverts en bois du secteur marchand de Lac Bleu s'interrompirent bientôt et nous passâmes dans les rues pavées devant des maisons serrées les unes contre les autres, comme si elles cherchaient à se protéger du froid. Le vent était comme une main glacée qui s'efforçait sans cesse de nous repousser. Le pavage laissa bientôt la place à de la terre battue et nous nous retrouvâmes sur une route qui circulait entre de petites fermes. Elle était creusée d'ornières et boueuse de la pluie des derniers jours. Au moins, il faisait beau aujourd'hui, même si le vent violent était froid.
« C'est encore loin ?» demandai-je enfin.
« Je ne sais pas trop. Je suis les indications qu'on m'a données. Faites-moi signe si vous voyez trois rochers entassés au bord de la route.
Que savez-vous réellement de ces contrebandiers ? »
fis-je d'un ton qui n'admettait pas de dérobade. Elle haussa les épaules d'un air un peu trop désinvolte.
« Je sais qu'ils se rendent dans les montagnes, alors que personne d'autre n'y va, et aussi qu'ils emmènent les... »
Des pèlerins ?
Appelez-les comme vous voudrez. Ils vont faire leur dévotion au sanctuaire des Dâ du royaume des montagnes. Ils avaient payé pour la traverser sur une gabarre plus tôt dans l'été, mais les gardes royaux ont réquisitionné toutes les embarcations et fermé les accès aux montagnes. Depuis lors, les pèlerins sont bloqués à Lac Bleu et ils cherchent un moyen de poursuivre leur voyage.
Nous parvînmes aux trois rochers. Ils marquaient le début d'une piste envahie d'herbe qui traversait une pâture parsemée de cailloux et de ronciers et entourée d'une barrière faite de poteaux et de pierres dressées. Quelques chevaux y paissaient d'un air accablé. J'observais avec intérêt qu'ils étaient de race montagnarde, râblés, et que leur pelage d'hiver commençait à pousser par plaques. Une petite maison se dressait très à l'écart de la route. Construite en pierre et mortier, elle avait un toit couvert de gazon, tout comme les latrines édifiées sur l'arrière. Un mince filet de fumée rapidement dispersé par le vent s'échappait de la cheminée. Assis sur la barrière, un homme taillait un morceau de bois. Il leva les yeux, nous examina et jugea sans doute que nous ne présentions pas de danger, car il ne nous interpella pas quand nous passâmes devant lui en direction de la porte de la chaumière. Dans la cour, de gros pigeons roucoulaient en se dandinant dans un colombier. Astéry frappa à la porte, mais c'est un homme qui passait l'angle de la maison qui lui répondit. Châtain, les cheveux épais et les yeux bleus, il était vêtu comme un fermier. Il portait un seau plein à ras-bord de lait fraîchement tiré. « Qui est-ce que vous cherchez ?» nous demanda-t-il en guise de salut.
« Nick, » répondit Astéry.
« Je ne connais pas de Nick. » L'homme ouvrit la porte et entra. Sans gêne, Astéry le suivit, et je lui emboîtai le pas avec moins d'assurance. J'avais mon épée au côté. Je rapprochai la main de la garde, mais sans la toucher. Je ne tenais à provoquer personne. Dans la chaumière, un feu de bois flotté flambait dans l'âtre. Seule une partie de la fumée trouvait une issue dans le conduit de cheminée. Un enfant avec un chevreau tacheté était assis sur un tas de paille dans un angle. Il nous dévisagea de ses yeux bleus écarquillés, mais ne dit rien. Des jambons et des flèches de lard fumé pendaient bas des poutres. L'homme se dirigea vers une femme qui tranchait de gros tubercules jaunes sur une table, déposa le seau près de ce qu'elle avait déjà découpé, puis se tourna vers nous d'un air affable.
« Vous avez dû vous tromper de maison. Essayez plus bas sur la route. Pas la prochaine maison, sachez Pelf, mais plus loin peut-être. »
« Merci beaucoup, nous allons suivre votre conseil. »
Astéry sourit à la cantonade et retourna à la porte. « Vous venez, Tom ?» me demanda-t-elle. Je saluai les fermiers d'un signe de tête et suivis la ménestrelle. Nous quittâmes la chaumière et remontâmes le chemin. Quand nous fûmes assez loin, je demandai.
« Et maintenant ?»«
Je ne sais pas exactement. D'après la conversation que j'ai surprise, je crois qu'il faut aller chez Pelf et demander Nick. »
D'après la conversation que vous avez surprise?
Vous ne croyez tout de même pas que je connaissais personnellement ces contrebandiers? J'étais au bain public, et deux femmes parlaient entre elles des pèlerins qui voulaient aller dans les montagnes. L'une disait que c'était peut-être leur dernière occasion de prendre un bain avant quelque temps, et l'autre a répondu qu'elle s'en fichait du moment qu'elle quittait enfin Lac Bleu. Et la première a indiqué à la seconde où devait avoir lieu le rendez-vous avec les contrebandiers.
Je me tus. Mais mon expression dut être éloquente, car Astéry s'exclama d'un ton outré.
« Avez-vous une meilleure idée ?
Au moins, nous aboutirons peut-être à quelque chose. Nous risquons surtout d'aboutir à nous faire trancher la gorge.
Eh bien, retournez en ville, voir si vous trouvez mieux. »
Dans ce cas, à mon avis, l'homme qui nous suit nous prendrait pour des espions, et il ne se contenterait plus de nous suivre. Poussons jusque chez Pelf et voyons ce que ça donne.
Non. « Ne vous retournez pas. »
Nous rejoignîmes la route et nous dirigeâmes vers la ferme suivante. Le vent avait forci et sentait la neige. Si nous ne mettions pas bientôt la main sur Nick, le trajet de retour en ville allait être long et froid. Autrefois, l'exploitation avait manifestement été bien entretenue. L'allée était bordée de bouleaux blancs, mais ce n'était plus que de fragiles épouvantails aux branches dénudées dont l'écorce s'arrachait au vent. Quelques survivants pleuraient des feuilles d'or. Des barrières avaient clôturé de grands champs et de vastes pâturages, mais les animaux en avaient depuis longtemps disparu. Les champs, envahis d'herbes folles, n'étaient plus cultivés. Les pâtures chardonneuses étaient à l'abandon. Qu'est-il arrivé à cette région ? Demandai-je alors que nous longions ce paysage de désolation.
Plusieurs années de sécheresse suivies d'un été d'incendie. Loin au-delà de ces fermes, les zones qui bordent le fleuve étaient couvertes de forêts de chênes et de pacages. Là où nous sommes, c'était des exploitations laitières, mais là-bas, les petits propriétaires faisaient brouter leurs chèvres dans les prairies et leurs haragards se nourrissaient des glands des chênes. Il paraît que c'était aussi une région très giboyeuse.
Et puis, un jour, les incendies se sont déclenchés, et on dit qu'ils ont duré plus d'un mois, au point que l'air était irrespirable et le fleuve noir de cendres. Le feu a détruit non seulement les forêts et les pâtures, mais aussi les champs et les maisons touchées par les braises volantes. Après plusieurs années sans pluie, le fleuve n'était plus qu'un ruisselet, et les incendies se sont étendus partout. Ensuite, la sécheresse a repris et les vents transportaient désormais autant de poussière que de cendres, qui ont obstrué les petits cours d'eau. Enfin, la pluie s'est mise à tomber en automne et toute l'eau que les gens appelaient de leurs vœux s'est abattue sur le pays en une seule saison, à torrents. Quand les crues ont baissé, ma foi, vous voyez vous-même ce qui restait. Un sol caillouteux, entièrement lessivé. Je me rappelle avoir entendu parler de tels événements. C'était lors d'une conversation qui remontait à longtemps. Quelqu'un, Imbre, peut-être, m'avait dit que les gens tenaient le roi responsable de tout, même des sécheresses et des incendies. À l'époque, cela n'avait guère eu de sens pour moi, mais pour ces fermiers, ça avait dû être la fin du monde. Ce bâtiment lui aussi évoquait une main attentionnée et des jours meilleurs. Construit en bois, il était doté d'un étage, mais la peinture avait passé depuis longtemps et des volets bouchaient les fenêtres du haut. Une cheminée pointait à chaque extrémité du toit, mais l'une d'elles perdait ses pierres. De la fumée s'échappait de l'autre. Une fillette se tenait devant la porte, occupée à caresser délicatement un gros pigeon gris posé sur sa main. « Bonjour !» nous dit-elle d'une voix agréablement douce quand nous nous approchâmes. Elle portait une tunique en cuir par-dessus une ample chemise en laine crème, des chausses en cuir également, et des bottes. Elle devait avoir une douzaine d'années, et d'après la couleur de ses yeux et de ses cheveux, elle était sûrement apparentée aux occupants de l'autre ferme. « Bonjour !» répondit Astérie. « Nous cherchons Nick. » La fillette secoua la tête.
« Vous vous êtes trompé de maison. Il n'y a pas de Nick ici. Vous êtes chez Pelf. Vous devriez peut-être voir plus loin. »
Elle nous sourit, l'air seulement intrigué. Astérie me lança un coup d'œil indécis et je lui pris le bras. « On a du mal nous renseigner. Venez, rentrons en ville. Nous demanderons de nouvelles précisions. » À ce moment-là, je ne cherchais qu'à nous tirer d'embarras.
« Mais !»
fit-elle, démontée. J'eus une inspiration subite. Chut! On nous a prévenu qu'il ne faut pas plaisanter avec ces gens-là. L'oiseau a dû s'égarer ou un faucon l'attaquer. Nous n'avons plus rien à faire ici.
Un oiseau?
Pépia soudain la fillette.
Un pigeon, c'est tout. Bonne journée.
Je mis le bras sur les épaules de la ménestrelle et l'obligeai à faire demi-tour.
Pardonnez-nous de vous avoir dérangé.
Il est à qui, ce pigeon?
Je la regardai un instant dans les yeux. Un ami de Nick?
« Mais ce n'est pas grave. Venez, Astérie. »«
Attendez !»
s'exclama l'enfant.
« Mon frère est à l'intérieur. Il connaît peut-être Sonic ?»«
Je ne voudrais pas le déranger. »«
Ne vous en faites pas. »
L'oiseau posé sur sa main battit des ailes alors qu'elle montrait la porte du doigt.
« Entrez un moment, vous réchauffez. »«
C'est vrai qu'il fait froid, » reconnus-je.
Je me tournai pour regarder l'homme au bout de bois qui sortait de l'allée de bouleau.
Peut-être pourrions-nous tous entrer.
Peut-être.
La fillette sourit largement en voyant l'air déconfit de celui qui croyait nous suivre discrètement. La porte ouvrait sur un vestibule nu. La belle marqueterie du battant était éraflée et n'avait pas été huilée depuis bien longtemps. Des zones pâles au mur indiquaient l'emplacement de tableaux et de tapisseries disparues. Un simple escalier de bois menait à l'étage. La seule lumière était celle que laissaient passer les vitres épaisses. Au moins, on ne sentait plus le vent, mais il ne faisait guère plus chaud dedans que dehors.
« Attendez ici !»
nous dit la fillette en pénétrant dans une pièce sur notre droite et en refermant la porte derrière elle. Astérie se tenait un peu trop près de moi pour mon goût. Le tailleur de bout de bois nous observait d'un œil inexpressif. La ménestrelle prit une inspiration. « Chut !» lui soufflai-je avant qu'elle pût prononcer un mot. Elle obéit et s'accrocha à mon bras. Je fis semblant de rajuster ma botte, et en me redressant, je me tournai et fis passer la jeune femme sur ma gauche. Elle me saisit aussitôt le bras de ce côté-là. Une éternité parut s'écouler avant que la porte se rouvre sur un homme de grande taille, aux cheveux châtains et aux yeux bleus. Comme la fillette, il portait des vêtements de cuir et un très long poignard pendait à sa ceinture. L'enfant le suivait, l'air de mauvaise humeur. Il l'avait donc réprimandé. Il nous regarda, la mine renfrognée, puis, d'un ton peu amène.
« Qu'est-ce que vous voulez ?»«
C'est une erreur, messire, » dis-je. « Nous cherchions un certain Nick et nous nous sommes manifestement trompés de maison. Veuillez nous excuser. »
« Un de mes amis a un cousin nommé Nick, » fit-il à contre-cœur. « Je pourrais peut-être lui faire dire que vous êtes là. »
Je serrai la main d'Astérie pour lui imposer le silence. « Non, non, nous ne voulons pas vous déranger, à moins que vous n'ayez la bonté de nous apprendre où trouver Nick lui-même. »«
Je pourrais prendre un message, » proposa-t-il encore,
mais ce n'était pas vraiment une offre de service. Je me grattais la barbe en prenant l'air pensif. « J'ai un ami dont le cousin souhaite faire passer quelque chose de l'autre côté de la rivière. On lui a rapporté que Nick connaissait peut-être quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Mon ami a promis à son cousin qu'il enverrait un oiseau prévenir Nick de notre venue, contre une somme convenue, naturellement. Vous voyez, c'est une affaire sans grande importance. » L'homme hocha lentement la tête.
« J'ai entendu parler de gens dans le coin qui font ce que vous dites. C'est un travail dangereux et interdit en plus. » Ils y laisseraient la tête si les gardes royaux les surprenaient.
Certainement, acquiesçai-je, mais je ne pense pas que le cousin de mon ami ferait affaire avec des gens qui se laissent attraper. C'est pourquoi il désirait parler à Nick.
Et qui vous a envoyé ici chercher ce Nick?
Je ne sais plus, répartis-je sans frémir. J'oublie les noms très facilement, je regrette.
Ah oui?
Fit l'homme, en m'examinant d'un air calculateur. Il adressa un coup d'œil accompagné d'un petit hochement de tête à sa sœur.
« Puis-je vous offrir la goutte ? »
demanda-t-il en indiquant la pièce d'où il était sorti. « Avec le plus grand plaisir, » répondis-je. Je parvins à décrocher Astérie de mon bras en suivant l'homme. Comme la porte se refermait derrière nous, la ménestrelle poussa un soupir de soulagement en sentant la douce chaleur qui régnait dans la pièce. Celle-ci était aussi opulente que l'autre était nue. Le plancher était recouvert de tapis, les murs décorés de tapisseries. La lumière provenait d'un chandelier garni de bougies blanches et posé sur une lourde table de chêne, et d'un âtre énorme où flamboyait un feu devant un demi-cercle de fauteuils d'apparence confortable. L'homme nous y conduisit en s'emparant au passage d'une carafe d'eau-de-vie sur la table.
« Va nous chercher des timbales !»
ordonna-t-il à la fillette d'un ton péremptoire. Il devait avoir dans les 25 ans. Les grands frères ne font pas les héros les plus affectueux. L'enfant tendit son pigeon à l'homme au bout de bois, à qui elle fit signe de sortir avant d'aller quérir les objets demandés.
« Alors, que désiriez-vous ? »
fit notre interlocuteur quand nous fûmes installés devant le feu. « C'était vous qui parliez ? » répondis-je d'un ton affable. Il se tut en attendant que sa sœur eût fini de distribuer les timbales. Il les remplit. Et nous les levâmes tous les quatre ensemble.
« Au roi royal !»
dit-il. « À mon roi, » fis-je courtoisement avant de boire. C'était une eau-de-vie de qualité que Burick aurait appréciée.
« Le roi aimerait voir des gens comme notre ami Nick au bout d'une corde, » déclara l'homme.
« Ou plutôt dans son cirque. » Je poussai un petit soupir. « Quel dilemme ! D'un côté le roi en veut à sa vie, de l'autre... Sans l'embargo royal sur le commerce avec les montagnes, quel moyen d'existence aurait Nick ? Il paraît qu'il ne pousse plus que des cailloux sur les terres de sa famille. L'homme hocha la tête d'un air compatissant.
« Pauvre Nick, il faut bien survivre. »
« En effet, et parfois pour survivre, il faut traverser une rivière même si le roi l'interdit.
« Ah ? »
fit l'homme.
« Là, ce n'est pas tout à fait la même chose que faire parvenir un objet de l'autre côté. »
« Ce n'est pas si différent, » rétorquai-je. « Si Nick connaît son métier, l'un ne devrait pas être plus difficile que l'autre, et on le dit doué. »«
C'est le meilleur, » intervint la fillette, avec une fierté sereine.
Son frère lui lança un regard d'avertissement.
« Qu'est-ce que votre homme offrirait pour traverser ? »
demanda-t-il à mi-voix. « Ce qu'il aurait à offrir, il en ferait part à Nick lui-même, » répondis-je sur le même ton. Le temps de quelques respirations, notre hôte resta les yeux plongés dans le feu, puis il se dressa et nous tendit la main.
« Nick Grappin, ma sœur, Pelf. »«
Tom, » dis-je.
« Astérie, »
fit la ménestrelle. Nick leva encore une fois sa timbale.
« À une affaire qui va se conclure. lança-t-il, et nous bûmes à nouveau. Enfin, il s'assit et s'enquit aussitôt.
Pouvons-nous parler franchement ?
Je hochai la tête. Le plus franchement possible. Nous avons appris que vous alliez faire franchir la rivière à un groupe de pèlerins pour les emmener au royaume des montagnes. Nous souhaitons bénéficier du même service.
Au même prix,
ajouta Astéry.
Nick, je n'aime pas ça,
intervint soudain Pelf.
Quelqu'un a été trop bavard. Je savais qu'on n'aurait jamais dû accepter le premier groupe. Comment être sûr que...
Tais-toi. C'est moi qui prends les risques. C'est donc moi qui décide de ce que je fais ou ne fais pas. Toi, tu restes ici, et tu tiens la maison en attendant mon retour. Et surveille ta langue aussi.
Il revint à moi.
Ce sera une pièce d'or chacun, d'avance. Une autre une fois passé la rivière. Et une troisième, à la frontière des montagnes.
Ah. Le prix était exorbitant. Nous n'avons pas... Astéry me planta brusquement les ongles dans le poignet, et je m'interrompis.
Vous ne me ferez jamais croire que les pèlerins ont payé autant,
dit-elle calmement.
Ils fournissent leurs chevaux et leurs chariots, et leurs vivres aussi.
Il nous dévisagea, la tête penchée.
Mais vous, m'avez l'air de voyager avec ce que vous avez sur le dos et rien de plus.
Ce qui nous rend beaucoup plus facile à cacher qu'un chariot et un attelage. Nous vous donnons une pièce d'or aujourd'hui, et une autre à la frontière.
Pour nous deux, proposa Astéry.
Nick se radossa dans son fauteuil et réfléchit quelques instants. Puis, il resservit une tournée d'eau-de-vie.
Ce n'est pas assez, fit-il d'un ton de regret. Mais j'imagine que vous n'avez pas davantage.
C'était bien plus que je ne possédais, mais peut-être Astéry avait-elle la somme, du moins je l'espérais.
Faites-nous simplement franchir la rivière pour ce qu'elle vous propose, dis-je. Après, nous nous débrouillerons.
Astéry me flanqua un coup de pied sous la table et s'adressant apparemment à moi, elle déclara
« Il emmène les autres de l'autre côté de la frontière, autant profiter de leur compagnie. »
Elle se tourna vers Nick.
« Il faudra que ça suffise pour nous conduire jusqu'aux montagnes. »
L'homme but une gorgée d'eau-de-vie, puis poussa un long soupir.
« Toutes mes excuses, mais je dois voir votre argent avant de toper. »
Astéry et moi échangeâmes un coup d'œil.
Nous aimerions discuter un moment seul à seul, dit-elle d'un ton benoît. Toutes nos excuses.
Elle se leva, prit ma main, et m'entraîna dans un angle de la pièce. Là, elle chuchota.
N'avez-vous donc jamais marchandé? Vous donnez trop, et trop vite.
Bon, combien d'argent avez-vous?
En guise de réponse, je vidai ma bourse dans ma paume. Elle s'empara du contenu avec la vivacité d'une pie qui vole du grain, puis elle le soupesa d'un air averti.
« C'est insuffisant. Je pensais que vous étiez plus riche que ça.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?»
Du bout du doigt, elle toucha la boucle d'oreille de Burick. Je refermai la main avant qu'elle pût la prendre. Un objet qui a beaucoup d'importance pour moi.
« Plus que votre vie ?»«
Pas tout à fait, reconnus-je, mais presque. » Il a appartenu quelque temps à mon père, et c'est un ami très proche qui me l'a donné.
Eh bien, s'il faut le donner, je veillerai à ce que ce soit pour un bon prix.
Et sans un mot de plus, elle retourna auprès de Nick. Elle se rassit, termina son eau de vie, et attendit que je la rejoigne. Quand je fus installé, elle dit à Nick,
« Nous allons vous remettre tout ce que nous avons dès maintenant. Ce n'est pas autant que vous en demandez, mais à la frontière des montagnes, j'y ajouterai tous mes bijoux, bagues, boucles d'oreilles, tout. Alors ? »
L'homme secoua lentement la tête.
« Ce n'est pas assez pour que je risque la corde. »
« De quel risque parlez-vous ? »
rétorqua la ménestrelle.
« Si on vous prend en compagnie des pèlerins,
c'est le gibet pour vous. Et ce qu'ils vous ont donné couvre déjà ce risque.
Notre présence n'augmente pas le danger, mais seulement la quantité de vivres à emporter. Ce que je vous offre le vaut bien. « Non ?»
Il secoua de nouveau la tête, presque à contre-cœur.
Astéry tendit la main vers moi.
« Montrez-lui l'objet, »
fit-elle à mi-voix. Avec une sensation proche de la nausée, j'ouvris ma bourse et en tirai le clou d'oreille.
« Ça n'a peut-être pas l'air de grand-chose à première vue, » dis-je, « si on n'est pas versé dans ce domaine comme moi,
Mais je sais ce que je possède, et j'en connais la valeur. Ce bijou vaut tous les ennuis que notre présence pourrait vous causer. » Je montrai au passeur le clou d'oreille au creux de ma main, avec le saphir enfermé dans sa résille d'argent. Puis je le pris par la tige et l'approchai de la lumière dansante des flammes. La valeur ne tient pas seulement à la pierre, ni au métal, mais à la facture. Voyez la souplesse de la résille d'argent, la finesse des maillons. Astérie toucha l'objet du bout de l'index. « Il a appartenu autrefois au roi servant chevalerie, » ajouta-t-elle avec respect.
« Les espèces s'écoulent plus facilement, » observa Nick.
Je haussai les épaules.
« Si on ne s'intéresse qu'à l'argent, c'est exact. Mais on peut trouver parfois du plaisir à posséder un objet, un plaisir supérieur à celui du poids des pièces dans une poche. Cependant, une fois que celui-ci vous appartiendra, vous pourrez le changer contre bon argent, si vous le souhaitez. Si je devais m'en charger aujourd'hui, pressé par le temps, je n'en tirerais qu'une fraction de sa valeur. Mais un homme qui aurait vos relations et le temps de marchander pourrait en obtenir 4 pièces d'or au bas mot. Maintenant, si vous préférez, je peux retourner en ville avec ce bijou et... » Une lueur de convoitise s'était allumée dans les yeux de l'homme.
« Je le prends, de l'autre côté de la rivière, » répondis-je. Je fixai le clou au lobe de mon oreille. Ainsi, Nick le verrait chaque fois qu'il me regarderait. Je décidai de donner un tour officiel à la transaction. Vous nous conduisez tous les deux sains et saufs sur l'autre rive de la rivière, et une fois que nous sommes arrivés, la boucle d'oreille est à vous.
« Comme seul paiement, » intervint Astérie. « Mais nous vous laissons tout notre argent jusque-là, à titre de garantie. »
« C'est d'accord, topez-la, » fit Nick, et nous échangeâmes une poignée de main.
« Quand partons-nous ? » demandai-je.
« Quand le temps le permettra, » répondit-il.
« Demain, ce serait mieux. »
Il se leva, lentement.
« Demain ? »
« Eh bien, demain, si le temps le permet, nous partirons. Et maintenant, je dois m'occuper de quelques bricoles. Vous voudrez bien m'excuser. Je vous laisse aux bons soins de Pelf. »
Je pensais que nous rentrerions en ville pour la nuit, mais Astérie fit affaire avec la fillette. Ses chansons, contre un repas et une chambre. Un peu inquiet de dormir chez des inconnus, je réfléchis néanmoins et conclus que cela présentait moins de risques que retourner à Lac Bleu. Si le repas que prépara Pelf n'était pas aussi fin que celui que nous avions savouré à l'auberge d'Astérie la veille, il valait tout de même infiniment mieux qu'une soupe aux oignons et aux pommes de terre. Nous eûmes droit à d'épaisses tranches de jambon frit accompagnées de compotes de pommes et à un gâteau épicé fourré de fruits et de graines. Pelf nous apporta de la bière et, se joignant à nous, nous entretint de sujets généraux. Après le souper, Astérie chanta quelques chansons pour la fillette, tandis que mes paupières se fermaient irrésistiblement. Je finis par demander qu'on me conduisît à la chambre, sur quoi la ménestrelle se déclara elle aussi fatiguée. Pelf nous guida jusqu'à une pièce située au-dessus du salon ornementée de niques. Autrefois accueillante, la chambre ne servait sans doute plus régulièrement depuis des années. Notre hôtesse avait allumé un feu dans la cheminée, mais le froid d'un long manque d'usage et l'odeur de renfermé d'un lieu négligé imprégnaient l'air. Un immense lit trônait dans un angle, muni d'un matelas de plumes et de tentures grisaillantes. Astérie y posa un regard critique, et dès que Pelf fut sorti, elle se mit en devoir d'en retirer les couvertures et de les étendre sur un banc qu'elle plaça devant l'âtre.
« Ainsi ça les aère et ça les réchauffe, » me dit-elle.
Ce n'était manifestement pas la première fois qu'elle se trouvait dans ce genre de situation. Pendant ce temps, j'avais barré la porte et vérifié les loquets des fenêtres et des volets. Tous semblaient solides. Un soudain épuisement m'empêcha de répondre à la ménestrelle. J'y vis l'effet de l'eau-de-vie mélangée à la bière. À geste lent, je bloquai la porte à l'aide d'une chaise sous l'œil amusé d'Astérie. Puis je retournai auprès du feu. Me laissai tomber sur les couvertures drapées sur le banc et tendis les jambes pour les réchauffer. J'en profitai pour retirer mes bottes du bout du pied.
« Allons, demain, je serai en route pour les montagnes. »
La ménestrelle s'assit à mes côtés. Elle ne dit rien pendant un moment. Puis elle tapota ma boucle d'oreille de l'index.
« Ça a vraiment appartenu à chevalerie ?»
me demanda-t-elle.
Pendant quelque temps, oui.
Et vous êtes prêt à vous en défaire pour vous rendre dans les montagnes? Qu'en dirait-il?
Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais connu. Je soupirai soudain. D'après tout ce que j'ai appris de lui, il avait beaucoup d'affection pour son jeune frère. Je ne pense pas qu'il m'en voudrait de donner ce bijou pour rejoindre Vérité.
Ainsi, vous êtes bien à la recherche de votre roi?
Naturellement. Il me paraissait futile de le nier plus longtemps. J'essayais en vain d'étouffer un bâillement. Je ne suis pas sûr qu'il ait été avisé de parler de chevalerie devant Nick. Il risque de faire le rapprochement. Je me tournai vers Astérie. Son visage était trop près du mien, et je n'arrivais pas à distinguer clairement ses traits. Mais j'ai trop sommeil pour m'en inquiéter, ajoutai-je.
Vous ne tenez pas bien le gai-bouton,
fit-elle en riant. Il n'y avait pas de fumée ce soir, objectai-je.
Dans le gâteau.
Pelf vous avait prévenu qu'il était épicé.
C'est donc ça qu'elle voulait dire?
Oui, épicé à ce sens dans tout Bauge.
Ah, en serre, ça signifiait qu'il y avait du gingembre ou du cédra.
Je sais.
Elle se laissa aller contre moi en soupirant.
Vous ne faites pas confiance à ces gens, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. Ils se méfient de nous.
Si nous leur faisions confiance, ils n'auraient aucun respect pour nous. Ils nous prendraient pour des crétins et des naïfs, le genre d'engeance qui attire des ennuis aux contrebandiers en parlant trop.
Pourtant, vous avez serré la main de Nick.
En effet, et je pense qu'il tiendra sa parole, pour ce qu'elle vaut. Nous nous tûmes pensifs. Au bout d'un moment, je sursautais. Je m'étais assoupi.
Astérie se redressa près de moi.
« Je vais me coucher, »
annonça-t-elle.
« Moi aussi, » répondis-je. Je pris une couverture et commençai à m'en envelopper, devant le feu.
« Allons, ne faites pas l'enfant, »
me dit la ménestrelle.
« On tiendrait à quatre dans ce lit. Profitez-en tant que vous en avez l'occasion, car j'ai l'impression que nous n'en verrons pas d'autres, avant longtemps. »
Je ne me fis guère prier. Le matelas de plume était moelleux, quoiqu'il sentît un peu le moisi. Nous nous partageâmes les couvertures. J'aurais dû rester vigilant, je le savais, mais l'eau-de-vie et le gai-bouton avaient desserré le nœud de ma volonté, et je sombrais dans un profond sommeil. Je m'éveillai vers l'approche de l'aube lorsqu'Astérie posa son bras sur moi. Le feu s'était éteint, et la chambre était glacée. Dans son sommeil, la ménestrelle s'était décalée dans le lit et s'était collée contre mon dos. Mon premier réflexe fut de m'écarter, mais son corps faisait une présence chaude et agréable. Je sentais son souffle sur ma nuque. Un parfum de femme émanait d'elle qui ne devait rien à aucun artifice. Je fermai les yeux sans bouger. Au lit. L'envie d'elle qui me saisit, violente et impossible à satisfaire, fut comme une douleur. Je serrai les dents et m'imposai de me rendormir. Je devais le regretter. La petite pleurait, pleurait, pleurait. Molly, en chemise de nuit, une couverture jetée sur les épaules, était assise près du feu et la berçait interminablement. Le visage défait, les traits tirés. Elle lui chantait inlassablement la même berceuse dont toute mélodie avait depuis longtemps disparu. Elle tourna lentement les yeux vers la porte qui s'ouvrait.
« Puis-je entrer ?»
demanda Burick à mi-voix. Elle hocha la tête.
« Que faites-vous debout à cette heure ? »
fit-elle d'un ton las.
Je l'entendais pleurer depuis l'appentis. Elle est malade ?
Il se dirigea vers l'âtre, tisonna le feu, y ajouta une bûche, puis se pencha sur le nourrisson.
« Je ne sais pas. Elle pleure sans arrêt, c'est tout. Elle ne veut même pas téter. J'ignore ce qu'elle a. »
On sentait dans la voix de Molly une détresse que les larmes ne suffisaient plus à exprimer. Burick se tourna vers elle.
« Laissez-moi la prendre un moment. Allez vous coucher. Essayez de vous reposer, ou vous serez bientôt aussi malade qu'elle. Vous ne pouvez pas faire ça toutes les nuits. »
Molly leva vers lui un regard d'incompréhension.
« Vous voulez vous occuper d'elle? Vous feriez ça ?»«
Autant que je serve à quelque chose, » répondit-il avec un sourire forcé. « De toute façon, ces cris m'empêchent de dormir. »
Molly se leva avec une grimace, comme si son dos la faisait souffrir.
« Réchauffez-vous d'abord. Je vais préparer de la tisane. »
Il lui prit l'enfant des bras.
« Non, allez vous coucher. Inutile que nous restions tous éveillés. »
Molly paraissait avoir du mal à comprendre la situation.
« Vous ne m'en voudrez vraiment pas si je retourne dormir ?»«
Non, allez-y, je me débrouillerai. Allons, au lit. »
Il rajusta la couverture sur les épaules de Molly, puis serra la petite contre la sienne. Elle paraissait minuscule dans ses grandes mains tannées. Molly traversa la pièce à pas lents, puis elle se retourna vers Burick, mais il regardait le nourrisson.
« Chut !» lui disait-il. « Allons !»
Molly se mit au lit à geste maladroit et tira les couvertures sur elle. Burick resta debout devant le feu, avec un doux mouvement d'oscillation de tout le corps, et tapota lentement le dos du bébé.
« Burick ?»
fit Molly à mi-voix.
« Oui ?»
répondit-il sans se retourner.
« C'est ridicule que vous dormiez dans l'appentis par ce temps. Vous devriez vous installer ici pour l'hiver. Vous pourriez dormir devant la cheminée. »
« Oh, bah, il n'y fait pas si froid. C'est une question d'habitude, vous savez. »
Il y eut un bref silence.
« Burick, je me sentirais plus rassuré si je vous savais près de moi. »
Molly parlait d'une toute petite voix.
« Ah, eh bien, je vais déménager si vous y tenez. Mais vous n'avez rien à craindre cette nuit. Dormez maintenant, toutes les deux. »
Il pencha la tête et je vis ses lèvres effleurer le sommet du crâne de la petite. Puis, très bas, il se mit à chanter. J'essayais de distinguer les paroles, mais il avait la voix trop grave. Je ne reconnus pas non plus la langue qu'il employait. Mais les pleurs du bébé se firent plus hésitants. Il se mit à marcher lentement dans la pièce, d'avant en arrière, devant le feu. Par les yeux de Molly, je l'observais jusqu'à ce qu'elle aussi s'endorme à la mélodie apaisante de Burick. Mon seul rêve après cela me montra un loup solitaire, qui courait infatigablement. Il était aussi seul que moi.